Salut à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio MDM Electric Troubles Radio Show numéro 1228. Aujourd'hui dans notre chère émission, une interview, on va se faire plaisir avec The Chris Rolling Band. Sachez que la semaine prochaine est déjà prévue une interview de The Scuttles, un superbe groupe bien rock'n'roll. Et dans 15 jours après, ce sera Nika Leflang, ou Leflang, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais cette dame, vous la connaissez, puisque vous l'avez notamment vue chanter dans les Limanias. Voilà. Donc, trois interviews. On essaiera, et puis, si vous avez été attentif, vous avez vu qu'il manque une date. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose, mais j'ai des petites idées. Surtout, ne vous inquiétez pas pour moi. On va commencer l'émission avec un groupe qui s'appelle Howell et MacPhail, que j'ai chroniqué hier, tout simplement. Voilà, je viens de recevoir à ma demande le son qui vient de chez La Pochette Surprise Records, qui n'est pas un groupe français, un label français, je vais y arriver, comme on pourrait se l'imaginer, mais un label allemand. Et ils m'ont envoyé d'autres choses, Bikini Beach, et il y en a un troisième dont je ne me rappelle plus le nom, enfin en tout cas, dès que je reçois des infos, j'écoute, et puis si ça me plaît, je les contacte. Et ce fut le cas pour Howell MacPhail, donc formation de Hambourg. C'est un duo, Little Sin, c'est le titre du morceau, Transmissions from the Upper Room, c'est le titre de l'album. Voilà, ça vient tout juste de sortir, ou ça va sortir d'ailleurs, je n'en suis pas sûr. Voilà, il y a des choses un peu garage punk, un peu garage rock'n'roll, et puis il y a aussi des choses à la Dinosaur Junior et d'autres formations du style. Donc c'est pas mal. On va s'écouter ce premier morceau, et juste après on se retrouvera avec Chris Rolling de The Chris Rolling Squad. C'est parti.
To set this house
Voilà, donc dans Electric Troubles, c'était un premier morceau, Howell MacPhail, donc deux messieurs issus tout droit de Hambourg, en Allemagne. C'était la patrie de Horst Rubesch, pour ceux qui ont connu le football il y a très 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 longtemps. Le truc avec un ballon, là, qu'on voit encore un peu. Alors, on va commencer donc cette interview avec Monsieur Chris Rowling, c'est bien ça ? C'est ton vrai nom ?
Absolument pas.
Voilà. Alors vu... Ouais, non, mais parce qu'il y a deux Facebook, The Chris Rowling Squad, il y a Chris Rowling, et donc il doit y en avoir un troisième caché quelque part, c'est ça ?
Bon, non, sur Facebook, il y a mon profil perso, en fait, puis celui du groupe.
Voilà. Ouais. Alors, tiens, bah, pourquoi d'ailleurs t'as pris ce sobriquet de Chris Rowling ?
Ça date de l'époque où j'habitais à Vienne, en Autriche, ouais. Et j'avais un blog... en fait qui parlait où je faisais des chroniques de disques, ouais. De films, de trucs de série B, enfin toute la culture underground, on va dire. Et il y avait une bande de bikers qui habitait pas très loin de chez moi qui s'appelait les Rolling Bastards.
Ouais.
Et j'avais appelé mon site comme ça, Rolling Bastards, et je signais tous les articles Chris Rowling.
D'accord.
Et en fait, quand je suis rentré en France, j'ai conservé le nom, puis en plus ça coïncidait à l'époque où j'avais ouvert un compte Facebook où j'avais pris ce pseudo-là, parce que je voulais pas mettre mon vrai nom, parce que je voulais pas qu'on vienne m'emmerder à côté, quoi, voilà, puis ouais, voilà.
Donc, okay.
J'ai conservé le nom.
Tu es revenu en France à quelle époque à peu près ?
Vers 2012, quelque chose comme ça.
D'accord. Okay.
2012, ouais.
Donc, parce que je dis ça parce que j'ai vu les disques, en fait, différents albums, et il y en a un qui date de 2010.
Donc. Ouais, alors ça, c'était ce que j'avais fait avant.
Ouais. Oui, oui, voilà.
Ça, c'était un truc qui date d'avant. Donc voilà, il y a eu ça, et en fait le disque, celui-là il est sorti deux fois en fait. Et quand il a été réédité, on avait changé le nom en fait. Ça, parce que sur le premier pressage de cet album-là, par contre, il y a mon vrai nom dessus. Voilà. Et voilà. Puis ça me gavait, donc voilà, j'avais changé pour ça. Quoi.
D'accord. Allez, si on reprend la discographie là, de Chris Rowling Squad, comment tu pourrais me parler un petit peu des deux précédents, à moins que tu aies envie de rajouter celui qui était encore avant.
Non, les deux précédents. En fait, il y a le tout premier qui est juste un EP de 5 titres qu'on avait fait en 2016, quelque chose comme ça.
2015.
Fin 2015, début 2016. Bon, à l'époque, on s'était dit que ce serait pas mal d'avoir 5 titres pour les concerts, pour vendre pendant les concerts, genre de truc. Puis d'avoir un truc pour qui servirait un peu de carte de visite, on va dire. Et puis à l'époque, on n'avait pas le même batteur. Depuis Tib, qui est là maintenant, enfin ça fera 5 ans cet été. Après, la suite logique, c'était de faire un vrai album. Donc ce qu'on a fait avec le précédent, Spitfire. Et puis là, on en a fait un deuxième. Enfin bon, il date maintenant. Il est sorti cette année, mais ça fait presque. Ça fait presque 2 ans qu'il est fait, quoi.
Ah oui, d'accord. Ok, c'est compliqué de
sortir. Il aurait dû sortir l'année dernière, normalement.
Et voilà, c'est ballot.
En théorie, voilà. Mais bon, vu ce qui s'est passé, ça a été un peu le bazar dans tous les sens.
D'accord.
Donc voilà.
Ok, c'est quoi, selon toi, la marque de fabrique de Chris Rowling Squad ?
La marque de fabrique,
ouais.
Alors ça, c'est pas évident à dire.
Et d'ailleurs, quelle était la marque de fabrique au départ ? Et est-ce qu'elle a évolué ? Est-ce qu'elle est différente aujourd'hui ?
Ça a évolué, oui, ça a évolué dans le sens où, au départ, moi, quand je suis revenu ici, donc dans l'ouest, en Vendée, dans l'ouest de la France, Moi, bon, il y a longtemps que j'étais parti, quoi. J'étais parti pendant très longtemps. Donc, puisque j'ai habité 10 ans en région parisienne, et après j'étais à Vienne en Autriche. Et quand je suis revenu ici, bah, tout avait changé. Enfin, les choses fonctionnaient plus forcément de la même manière. Et donc, quand j'ai créé ce truc-là, en fait, le truc était très simple. C'était pour tourner. Bon, en gros, fallait avoir deux sets d'une heure, quoi. Fallait être capable de jouer deux heures, quoi. Et donc, à l'époque, on avait quand même pas mal de reprises. Puis alors, pour monter un truc vraiment rapidement et de pas être obligé de répéter pendant 3 ans avant de faire un concert, on avait pas mal de reprises. On avait pas mal de blues rock, des trucs d'Hendrix ou. Et à côté de ça, bon, dès le début quand même, on a eu des trucs qui rentraient vraiment dedans, quoi, qui étaient des morceaux courts, rapides. Et puis c'était un peu juxtaposé avec ça, en fait, avec des trucs un peu plus blues rock, qui permettaient plus d'improvisation, ou trucs comme ça, quoi. Puis après, au fur et à mesure, en fait, dans le temps, plus ça avançait, plus c'était rentre dedans et moins il y avait de blues rock, et plus il y avait des trucs vraiment vraiment rentre dedans, quoi.
D'accord. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se passer donc un premier morceau, donc 8-2000 Blues. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur celui-là de particulier?
Non, rien de. Enfin, il y aurait tout dépend. Enfin, non, c'est du rock and roll simple, droit, direct, rien de compliqué dans le truc. Hein. On fait pas de trucs compliqués de toute manière. Donc.
On est pas là pour ça.
Non. C'est pas trop l'école, on va dire.
D'accord, ben on va se l'écouter et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Dans Electric Troubles sur MDM. Bah ouais. Voilà donc un premier morceau de ce Chris Rolling Squad. Pour quelle raison il faut que ça tabasse Il y a quoi derrière tout ça?
Alors,
Tu
il y a
souffles
plusieurs
beaucoup, hein?
choses.
Tu souffles beaucoup, mais question t'embête, hein?
Non, non, pas du tout. Non, mais c'est que des fois, c'est pas toujours évident
Mais oui, je
d'expliquer
sais
les
bien.
choses. Bon, il y a déjà un truc qui est certain, c'est que on s'amuse beaucoup plus à jouer rapidement que lentement. Alors ça, je sais pas pourquoi, hein.
Ouais.
On a plein de trucs comme ça quand on les commence. Des fois, ça va pas forcément super vite, mais on les accélère toujours. Mais c'est naturel, hein. C'est pas quelque chose de calculé ou de. Tous ces trucs-là, c'est vraiment, il n'y a aucun calcul derrière. C'est venu tout seul, c'est venu naturellement. Donc tous les trois, c'est comme ça que c'est comme ça que on fonctionne, quoi. Et puis après, ce truc-là, c'est vrai que c'est aussi l'occasion de se défouler dans le sens où ouais, c'est un peu comme une baston, quoi. C'est genre de truc, mais sans créer de dommages aucun à qui que ce soit, quoi. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu as noté une accélération pendant les 1 an et demi de confinement? Une accélération dans la rythmique des morceaux? Je sais pas moi.
Non, pas une alors pas une accélération dans les rythmiques, parce que déjà il y a des trucs qui vont vraiment super 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 vite. Donc après, physiquement parlant, je sais, ça ferait peut-être beaucoup. Par contre, est-ce que ça aura un impact sur l'écriture? Oui, ça c'est clair et net. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, ça, c'est déjà le cas.
Ouais, c'est-à-dire à
C'est
quel
déjà le
niveau?
cas. On va dire que ça nous a rendus encore plus méchants, quoi. Voilà. Encore plus en colère, quoi. Voilà.
D'accord. Plus méchant dans le verbe, tu veux dire?
Ouais. Au niveau des textes, au niveau de la façon de cracher les choses, dans le sens où, bon, bah, ce truc-là, ça nous a tous mis en colère, quoi. C'est clair et net. Voilà.
D'accord.
C'est un truc, on va dire, je sais même pas si on le digérera un jour, quoi. C'est même pas certain, quoi.
D'accord. Dis-moi, c'est toi qui es à la base des morceaux ou c'est une expérience de groupe?
Bah alors, c'est un groupe, hein, c'est un vrai groupe. Après, le truc, ouais, depuis le début, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire bon, généralement j'écris tout, la musique, les paroles, les mélodies, et puis après on répète, je file ça aux gars, et puis eux ils mettent leur grain de sel dedans, et puis on voit ce qui marche et ce qui marche pas. Mais par contre, bon, c'est comme je disais dans une interview que j'ai faite il n'y a pas longtemps, c'est moi je viens avec des petites chansons, et puis après c'est les deux autres qui transforment ça en boule de feu, quoi, tu vois. Après, jusque-là, ça a très bien fonctionné comme ça. Ça veut pas dire qu'après on va pas se mettre à écrire de manière plus collective, on va dire. La porte est pas fermée du tout, hein. Là, en plus, Tib, notre batteur, il est guitariste aussi, hein. Il s'est acheté une belle guitare là, récemment. Donc maintenant, bah, peut-être qu'il va écrire plein de trucs, quoi. J'aimerais bien rire. Ça me ferait du temps libre supplémentaire. Donc,
Et est-ce que quand tu amènes des morceaux comme ça, des débuts de morceaux, des ébauches, est-ce que tu t'aperçois qu'il y a des choses qui marchent toujours très bien et des choses qui ont toujours des difficultés à être jouées ensemble? Je ne sais pas, moi, ça pourrait être des morceaux plus calmes ou des morceaux plus. J'en sais rien, des choses que tu essayes toi et en fait qui, dans cette formation de groupe, ne fonctionnent pas.
bah, ça là-dessus, on a le truc très simple pour savoir ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. C'est comme on répète pas mal déjà, donc bah, généralement, une fois que le truc il tient la route, allez, on va dire, si au bout de 2 mois on s'en est pas fatigué, et puis généralement après il y a le test ultime, c'est les jouer live. Si on les joue en live, on est content. Bon, ben, le truc, on va le garder, quoi. Voilà. Si
D'accord.
Par contre, la première fois qu'on va la faire live, le truc, on s'emmerde ou que, enfin, il y a bien un truc qu'on trouve moyen. Bon, généralement, ces titres-là, on les garde pas, quoi.
D'accord. Dis-moi, avec le temps, est-ce que finalement, c'est assez facile pour vous de créer un morceau avec votre expérience collective? Est-ce que ça se fait vite?
C'est facile. D'un côté, c'est facile. Mais de l'autre, c'est très dur, parce que plus ça va, plus on est exigeant, quoi. Ouais. Dans le sens où on n'aime pas trop répéter les choses. Donc, faut toujours qu'il y ait cette espèce de petit challenge quelque part. Il faut qu'il y ait de la nouveauté tout le temps, quoi.
D'accord. Voilà. Et le fait justement d'avoir des morceaux très rapides, ça donne pas parfois l'impression de se répéter? J'imagine que cette phrase conne, on vous l'a déjà dit.
Pour l'auditeur, oui, je peux comprendre ça. J'ai pas de problème à comprendre ça. Je veux dire, c'est comme les gens qui disent ACDC, ils ont fait 15 albums, mais c'est toujours le même. Les Ramones, ils ont fait presque 20 albums, mais c'est toujours le même.
Ça marche pour les gens qui font des choses lentes aussi, hein. De toute façon, c'est pas
moi de mon côté, moi les gens qui pensent ça, j'ai rien à leur dire déjà. c'est je m'entends pas bien avec ce genre de personnes. je veux dire, si quelqu'un entend quelque chose que quelqu'un d'autre n'entend pas, je pense que c'est plus celui qui l'entend qui est dans le vrai que celui qui l'entend pas. De toute façon, les groupes comme ça qui, je pense, dans la durée, au bout d'un moment, c'est forcément... à un moment ou à un autre, on va leur dire que ça va pas, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire un groupe qui change pas, on va lui dire, bah non, c'est chiant votre truc, parce que vous faites toujours la même chose. Et puis les groupes qui changent, on va toujours leur dire, oh putain, non, c'était mieux avant.
Ouais, c'était mieux avant, voilà.
Donc voilà, quoi qu'il arrive, c'est pour ça qu'on s'occupe jamais de ce qu'on nous dit, en fait.
D'accord. Ok.
Ouais, ça là-dessus, non.
Dis-moi, dans des groupes qui tabassent un peu comme ça, tu connais les Iron Bastards de Strasbourg?
Alors eux, ils sont de Strasbourg.
Oui, Strasbourg,
hein, c'est ça,
ouais,
Nancy,
tout à fait.
Strasbourg.
Ouais, ouais.
Oui, j'ai vu des trucs à eux passer. Alors eux, oui, ils ont l'air vraiment branchés, vraiment motorettes.
Ça c'est sûr. Mais dans l'énergie que ça dégage, je trouvais qu'il y avait des petites similitudes. Mais... Je parle de l'énergie après le.
Mais par contre après dans la façon, de ce que j'en ai entendu en tout cas dans leur façon de faire et de sonner, ils ont un côté vachement anglais, quoi. Nous, on n'a pas ce côté-là. C'est un peu, bien évidemment, qu'on a des trucs où on nous dit souvent, qui sonnent à la Motorhead, entre guillemets. Mais par contre, moi, j'ai pas du tout ce timbre de voix. Moi, je peux pas chanter comme Lemmy. Je peux pas faire ça. C'est pas dans ma. Je serais incapable de faire ça, quoi. Donc.
Ok. Dis-moi, Cannonball Holocaust, j'imagine qu'il y a forcément un lien avec le film, quelque part.
Complètement.
Voilà. Donc, pourquoi t'es un fan de ce film? Ça représente quelque chose de particulier pour toi?
Ouais. C'est un film qui m'a vraiment marqué à plein de niveaux, en fait. Déjà parce que quand j'étais la première fois que j'ai vu ce truc-là, c'est en fait j'avais vu l'affiche devant un cinéma. C'était le jour où ma mère m'avait emmené en sixième. Et il y avait un cinéma pas très loin où ils mettaient un espèce de truc pour mettre des affiches dehors, quoi. Où il y avait cette affiche-là, et puis à l'époque, le truc était interdit aux moins de 18 ans, donc autant dire que c'était pas possible que j'aille le voir en salle. Et par contre, j'achetais déjà des bouquins sur le cinéma fantastique, L'écran fantastique ou Bad Movies ou ce genre de trucs, quoi. Et dans les bouquins à l'époque, le truc faisait scandale dans le sens où il y avait toute une histoire autour du film, comme quoi il y avait des acteurs qui avaient été tués en vrai, quoi, dans le film. Ça fait tout un barouf pendant une dizaine d'années, quoi, cette histoire, quoi. Donc le film avait une espèce d'aura un peu noire et malsaine, quoi. Mmh. Et forcément, c'était fascinant, quoi. Mmh. Et puis après, quand j'ai vu le film, je sais pas, peut-être 3-4 ans plus tard en vidéo, quoi. On avait regardé ça un après-midi avec des potes, c'était les débuts des vidéoclubs. Et en fait, tout le monde avait trouvé ça, ouais, c'est pas mal, bon, c'est un film d'horreur, quoi, tu vois. Mmh. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout un film d'horreur. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un film d'horreur. Il y a tout un sous-texte, en fait, dans le film. Voilà, le film m'a toujours énormément parlé, quoi. C'est un truc beaucoup plus intelligent et profond que ce qu'on pourrait penser au début. C'est un peu comme les abrutis qui pensent que Easy Rider, c'est un film sur la moto, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un peu le même truc, quoi. Voilà.
D'accord. Dis-moi, musicalement, pour balancer une tempête du genre, là, on s'y prend comment pour enregistrer? C'est quoi? C'est du live? C'est une prise directe?
Ouais, alors pour le disque, c'est toutes les bases, guitare rythmique, basse batterie, c'est du live.
D'accord.
C'est du live, et puis là, on a poussé le vis très très loin, dans le sens où on a enregistré ça avec les amplis avec nous dans la pièce. C'est-à-dire, on a joué sans casque. On a joué sans casque, sans clic. On est le cauchemar des ingénieurs du son, quelque part, quoi.
Ça représente des risques, des gros risques.
Oui, parce que après, si faut faire de l'édition dans tous les sens, c'est pas forcément facile. Parce qu'avec la repise des micros, enfin de tous les instruments dans tous les micros, c'est pas forcément évident de recaler quelque chose. Mais bon, ça, il suffit de bien jouer le morceau, puis il n'y a pas à recaler, normalement, après. Mmh. Par contre, ça file vraiment la frite pour jouer ce genre de truc, quoi. Le fait de jouer sans casque, en plus, là, on était dans une super pièce. Moi, j'avais mes deux gros Marshall derrière moi, qui étaient poussés encore plus fort que d'habitude. c'était limite facile à faire, quoi. Mmh. Voilà.
La libération.
ouais. Puis pour ce genre de truc, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il n'y a pas de mauvaise manière de faire un disque. Hein. Chacun fait comme il sent. Hein. Après, c'est vrai que je comprends pas trop, moi, ce truc-là. De généralement, j'ai toujours lu plein de trucs comme ça, ou entendu plein de groupes dire ça. Pour ce disque, on a essayé de sonner comme on sonne live et tout. Mais en fait, il l'enregistre d'une manière qui n'a rien à voir, donc je vois pas trop comment obtenir un résultat à peu près similaire, on va dire.
D'accord. On va se passer un deuxième morceau, donc il s'agit de Faster. Voilà, quelque chose sur celui-là? Me dis pas non. Hein.
Non. celui-là, il a commencé comme... je sais plus ce que j'avais branlé en répète ou je sais pas quoi, genre j'avais pété une corde ou un truc comme ça, j'étais en train de changer une corde, et puis c'est Tib qui s'amusait avec cette espèce de pattern de batterie et puis Brice derrière, il s'est mis à jouer un truc dessus, et puis le temps que je change ma corde, je sais plus ce que je faisais, quoi, ils étaient en train de s'amuser avec ça, et puis en fait ça m'a inspiré tout de suite, quoi. Et on va dire, allez, 5 minutes après, ça y est, le morceau il était écrit, quoi.
D'accord.
Donc voilà.
Ok, ça fonctionne bien, facilement. Mais écoute, on se passe ce Faster et puis on se retrouve juste après. C'est parti.
Ça roule. Yeah.
Eh, vous êtes dans Electric Troubles sur MDM. Bah ouais.
Voilà, c'était donc Faster, deuxième morceau, donc extrait de Cannonball Holocaust, donc le disque de Chris Rolling Squad. Je fais toujours attention quand je le dis parce que pendant des lustres j'ai marqué band derrière au lieu de squad, je sais pas pourquoi, mais bon, écoute, c'est comme ça. Donc maintenant je relis à chaque fois que je parle pour pas refaire une connerie. Vous avez bossé, on parlait tout à l'heure de l'enregistrement, vous avez fait ça avec un sondier, avec quelqu'un qui vous a aidé quand même, qui a apporté quelque chose ou
Ah bah oui, ben, en fait c'est le même. C'est le même qui avait fait le précédent. Mm. La seule chose qu'on a changé en fait dedans, c'est le précédent, c'est pareil. On avait fait toutes les bases guitare rythmique, basse batterie live. Mm. Par contre, on avait joué au casque avec les amplis dans des pièces séparées. Et là, la différence est venue de là, quoi. Le fait que cette fois on a joué sans casque et avec les amplis avec nous, quoi. Puis de toute façon, à l'époque, quand on avait évoqué ça, cette idée-là, Fabien Guillotot, donc, qui l'a enregistré et mixé, c'était le seul à être d'accord pour procéder de cette manière, quoi. Mm. Parce que sinon, tous les gens à qui on en avait parlé, tout le monde nous disait « Putain, mais vous êtes tarés, ça marchera jamais. Mm. » C'est la garantie que ça va sonner dégueulasse.
Mais lui, il l'avait déjà fait, ce procédé ?
Non.
D'accord.
Non. Ou il l'avait peut-être fait si des fois pour des démos, pour des groupes, des trucs enregistrés dans l'urgence. Mais un album entier comme ça, fini, bâché, un minimum produit quand même aussi. Mais là, non, c'était vraiment l'aventure. Hein. C'était.
Ok. Dis-moi, quand vous jouiez plutôt. Sur scène, avant de reprendre là. En face de vous, vous avez quoi ? Vous avez des rockers, des punks, des métalleux ?
Ben, alors généralement, alors après, ce qu'on entend souvent, c'est il y a des gens qui appellent ça du hard rock, d'autres qui appellent ça du punk, d'autres. Nous, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait du rock and roll, tout simplement. C'est qu'en fait, ça tape un peu dans tous ces styles-là, quoi. Le mieux c'est ça, c'est de jouer avec avec un espèce de public bigarré comme ça, en fait, où il y a un peu tout dedans, quoi. On rentre pas dans une case spécifique, on va dire. On n'est pas un groupe typique de hard rock comme on n'est pas un groupe typique de punk. Plus ça va, plus quand même, il y a pas mal de gens qui nous mettent dans la même case que des groupes comme les Super Suckers ou les Helicopters ou Peter Pan Speed Rock. Pareil, quoi, des groupes qui ont quelque part, j'ai envie de dire, le cul entre deux chaises. Quoi. Okay. C'est pas des métalleux, c'est pas des punks, c'est du rock'n'roll, quoi, voilà.
D'accord. Et quel serait sur le disque le morceau qui vous représente le plus ? Le mieux.
Ça c'est pas facile. Je dirais le quatrième ou le cinquième, je sais plus. Je dirais Straight Down to Hell. Je crois que c'est celui, ouais, qui parce que la face, c'est un des plus rapides. Il y a un espèce de breakdown dedans où on divise le tempo par deux celui-là il donne bien un aperçu de ce qu'on est parce que dans ce morceau là voilà, il y a ces deux trucs, le riff principal, on va dire, on pourrait appeler ça du punk rock, et puis cette espèce de truc avec le tempo divisé par deux au milieu, ça sonne plus hard rock, on va dire. C'est une bonne, juxtaposition des deux. Moi, ça correspond en plus à des riffs qui me viennent vraiment très facilement, quoi. Puis à la batterie, moi, je trouve que ça représente vraiment bien Tib. Parce que lui, son truc numéro un, c'est quand même ça, quoi. C'est jouer très vite et taper très fort. Donc, ça, je dirais celui-là, voilà.
D'accord. Dis-moi, le visuel, il fait froid dans le dos, quand même.
Un peu. Ah, je suis content que tu dises ça.
Enfin, c'est de face, mais ça fait froid dans le dos.
C'est c'était voulu, hein. Mmh. C'était un truc. C'est pas censé représenter quelque chose de sympathique. Quoi. Mmh. Je sais que beaucoup de gens y ont vu un côté tarantinesque, on va dire, dans le truc. Bon, ça me parle moyennement, ce genre de description, parce que c'est pas du tout ce qu'on a voulu faire. Hein. Après, il y a le côté, il y a l'artwork et puis les polices de caractère qui c'est un espèce de mélange. En fait, le gars qui a fait ça. Il y a un espèce de mélange dans le truc qui est entre le film d'horreur, on va dire, et le western spaghetti quelque part, quoi. Donc il y a un petit côté avec le tout, c'est vrai qu'il y a un petit côté affiche de cinéma, quoi.
Ouais, tout à fait.
Et de vieux trucs, quoi,
vous aimez les visuels qui pètent quand même, parce que les deux d'avant façon c'est des visuels qui ont de l'éclat. Voilà. Alors, pas les mêmes significations, mais...
Ça représente aussi beaucoup les gens qui les ont fait, en fait, hein, quelque part. Hein. Parce que dans les deux cas, je vois quand je dis les deux cas, c'est-à-dire l'album précédent et celui-là, c'est les gens c'est deux personnes différentes qui les ont fait. Hein. Ils avaient quelques directives ou alors des maquettes ou des trucs comme ça, tu vois, mais après, il y a quand même vraiment leur patte dedans, quoi, tu vois. Quand on regarde Spitfire et quand on voit ce que fait Stan W. Decker à côté, il y a sa patte dedans, c'est indéniable, quoi. Et là, pareil, pour Cannonball, Uncle Red, qui a fait l'artwork, il y a sa patte aussi dedans, mais c'est ce qu'on voulait, quoi. On n'est pas des tyrans là-dessus, avec un cahier des charges ultra précis, genre on veut ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. C'est en fait, il y a l'idée de base, et puis après, on aime bien être surpris aussi, quoi. Mmh.
D'accord. Dis-moi, il va sortir, on va terminer là-dessus, sur quel format ?
Ah ben il est sorti, pour le moment il est sorti, alors en vinyle.
Ouais.
Et en numérique, pour l'instant, il n'y a pas de CD, il n'y en aura peut-être pas. C'est un truc... Les deux labels suédois qui ont sorti le disque, eux, de toute façon, ils font pas de CD, ils n'aiment pas ça. Et puis, nous, on s'en fout aussi, quoi, parce que tous les trois dans le groupe, nous, on n'achète que des vinyles, déjà. Il n'y a plus beaucoup de monde aujourd'hui qui achète des CD, quoi, donc...
Ok, donc je crois après, que ça, je crois que l'affaire
ça viendra,
est réglée.
Hein, le truc, c'est toujours la même question, en fait. Hein. Si un jour un autre label veut presser des CD, il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'ils se mettent en relation avec les deux autres labels et puis qu'ils voient ça avec eux au niveau de la licence et compagnie.
Ok.
On les laissera faire.
Hein. Oui, je me doute. Où est-ce qu'on peut se le procurer, enfin, quand on vient d'un peu plus loin que chez vous ?
Il y a les trois sources les plus simples. Alors, c'est soit sur notre Bandcamp à nous. Sinon, il y a le site de Cymex Records. Sinon, il y a aussi le site de Tfatak Records, qui est l'autre label. Sinon, il y a plusieurs autres labels qui le distribuent. Il y a Beluga Records, puis une poignée d'autres. Mais le plus simple, voilà, c'est soit Bandcamp, notre Bandcamp à nous, ou alors les sites marchands des deux labels suédois. Alors, ceux qui veulent des... Parce qu'en fait, le disque est sorti en vinyle noir traditionnel. Et il y a une petite série aussi qui a été faite en orange marbré. Je crois que c'est ça le vrai nom. Alors, s'il y en a qui veulent des oranges, bon, le faut qu'ils demandent à Cymex Records, parce que Tchatak Records en a plus, ils ont tout vendu. Nous, on n'en a plus non plus. Mmh. Donc, peut-être que ça, chez Cymex, il en reste quelques-uns. Je ne sais pas.
Ok. Bon, voilà. Bah, écoute, on va se quitter sur le troisième morceau que j'ai choisi, donc Bring Down the Hammer. Et puis, il me reste à te remercier, hein, bien sûr.
Merci
voilà,
à vous
pour cette sympathique conversation. Voilà, on va suivre l'affaire. Et puis, bon, je crois qu'il y a quelques petites dates qui se profilent ou qui sont réfléchies dans
ouais,
un horizon.
Là, ouais, il y en a quelques-unes cet été. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a d'autres qui rentrent. Là. Bon, on reste quand même ultra méfiant, quoi.
Ouais, je me doutais.
Ouais, ouais, tant qu'on n'y est pas, on préfère être... Mais ouais, ouais, parce que bon, on va dire quand même l'année dernière, ça nous avait un peu traumatisé, quoi.
Ouais,
ouais, c'est au mois de mars 2020, c'est, on avait, à ce moment-là, on avait un sacré paquet de dates dans l'année, on n'avait jamais eu autant, d'ailleurs.
Ouais.
Et le fait d'être obligé de tout bâcher, quoi, c'est... on fera pas ça deux fois, quoi.
Tu vois,
ouais, ouais, ouais. Non, on va pas recaler des trucs, et puis après... Si deux mois plus tard on lui dit non, c'est pas possible, non, là...
Oui, il faut se préserver.
Ça va se finir à l'âche, ces affaires. Hein,
ok, bon, ça va, ouais, enfin, à l'âche, bon, musicalement, on peut le retraduire après.
Ouais, là, il y a quand même, enfin, je veux dire, tous ceux qui jouent dans un groupe sont un peu dans un état d'esprit un peu similaire, on va dire. Un an et des trois mois là sans jouer. Enfin si, on avait fait un concert au mois d'août l'été dernier, mais c'était un truc privé. Donc donc ouais, tous ceux qui étaient habitués à ça, c'est là on leur a clairement enlevé une partie de leur vie. Quoi.
Ouais,
donc,
c'est sûr. Bon. Il va y avoir des attaques de groupe par d'autres groupes sur scène, tu vois.
Ça, c'est pas impossible.
Ouais.
C'est pas impossible. Ouais, quand ça va reprendre, que ce soit un gros bordel, mais bon.
On verra bien. Bon, espérer que ça marche.
L'important, c'est que ça reprenne.
Voilà. Exactement. Bon,
après, si on verra ce résultat.
D'accord. Mais voilà, merci beaucoup.
Merci, ouais. Merci à toi.
Et salut.
Salut.
Ciao.
Vous êtes dans Electric Troubles sur MDM. Bah ouais.
Encore un grand merci à The Chris Rolling Squad, donc Chris Rolling qui ne s'appelle pas Chris Rolling, vous avez compris. En tout cas, un grand merci pour cette sympathique interview. Juste après, c'était Needle Spins, groupe américain de Portland, voilà, qu'on a déjà écouté, mais qui a sorti un truc tout récemment aussi. On va se quitter sur trois morceaux. Ce sera donc The Suttles qu'on aura la semaine prochaine. En interview, Messing Around, c'est le titre du morceau. Alors bien sûr, pour ceux qui ont été attentifs, vous êtes aperçus que tout à l'heure, j'ai dit The Scuttles. Voilà, il fallait bien que je dise une connerie, mais non, c'est The Suttles. Et enfin, je l'espère, parce que des fois, je suis un peu approximatif. Et Double Date with Death, c'est le groupe québécois qu'on s'écoutera dans la foulée avec Copier-Coller et Kings of Leon de Nashville. Allez, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle interview dans Electric Troubles Radio Show sur Radio MDM.
Missing around, it is down. I've been messing around for so long. I've been messing around all along. All along. I've been messing around, messing around. I've been messing around, messing around. I've been messing around, messing around. I've been messing around. I've been messing around. I've been messing around. I've been messing around. $20 G. I hear you blowing like a feather.
keep on giving away and giving it away.